France Culture.
Du vivant, donc, du sans-issue. Agnès Michaud. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, consacré ce soir à la vie sans issue, n'était le ciel, n'était les anges, de Joris Carl Huysmans. Huysmans, à qui notre invité Agnès Michaud consacre une flamboyante biographie portrait Huysmans vivant aux éditions du Cherche Midi. La première depuis 67 ans, braves gens. Une biographie en odorama, palpitante et coriace, qui se flaire et se hume autant qu'elle se lit et se dévore. Chronique en second temps d'émission, signée Esther Teillard et Stéphane Duménildo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Bien, la semaine dernière, nous faisions fête à La Marchande d'oubli de Pierre Jourde, formidable roman paru chez Gallimard. Bah, chacun sait que Pierre Jourde est un éminentissime huysmansien. Bah, ce soir, on va rester un peu du côté de La Marchande d'oubli de Pierre Jourde. Avec vous, Agnès Michaud, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, ça fait plaisir de vous revoir. La dernière fois, c'était en 1999, dites donc.
C'est vrai, c'était pour Fritz Lang.
Voilà, c'était pour un livre qui s'appelait « Je les chasserai jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce qu'ils en crèvent ». C'était sur Fritz Lang et Théa von Arbou.
En fait, j'avais fait un roman à partir de l'histoire qu'il a racontée tout le temps à Hollywood dans l'Enjolivant au fur et à mesure, qui était sa dernière journée à Berlin en mars 1933.
Voilà.
Et le jour où il a pris le train pour Paris.
Et depuis 1999, on se demandait souvent, mais que fait-elle, que devient-elle, qui était elle ? Vous avez écrit beaucoup de choses. Une trilogie romanesque.
Oui, sur la Belle Époque.
Voilà, où passe un certain Huysmans.
Eh bien oui, ça a un peu démarré là. Le héros fictif se fait un nouvel ami, et ce nouvel ami, c'est Huysmans.
Très bien. Bah, ce soir, Huysmans, on va savoir ce qu'il en est grâce à vous, puisque ce Huysmans vivant paraît au Cherche Midi, et c'est quand même une joie d'avoir enfin une biographie de Joris Carl. Présente également Esther Teillard, qui fait sa rentrée. Bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir Mauvais Genre.
Bienvenue à Mauvais Genre, donc Carme toujours bien sûr aux éditions Prouvaire. Et puis Tuer le courrier à la lettre Zola, un court récit
sur un facteur marseillais d'un quartier qui était communiste et qui ne l'est plus du tout, qui était un drôle de type avec qui j'ai noué une relation tout aussi drôle.
Un texte à lire, donc Tuer le courrier. Et puis ce soir, donc une chronique événement.
Ah oui, sur Feu sacré de Cécile Guilbert, qui est pour moi le roman de la rentrée littéraire, j'ose le dire. Voilà.
Alors, Laurent Polleret me dit, où peut-on lire Tuer le courrier ? À la lettre Zola.
La lettre Zola, oui.
Qui est une maison qui publie tous les mois, à peu près, un texte.
On reçoit une lettre, en fait. On s'abonne en ligne, on reçoit une petite lettre. On reçoit son courrier.
Voilà, c'est un texte littéraire qui vous arrive par la poste. Bonsoir Stéphane Duménildo.
Bonsoir François.
Actualité toujours bien évidemment, Soleil Rouge, une histoire du cinéma rebelle japonais aux éditions Façonnage, Mais encore.
Pas grand chose. Hein. Je reviens de Corée, hein, mais j'étais aussi.
C'est déjà pas mal.
Voilà, j'étais à Milan dans le même temps, puisque j'ai découvert.
Milan en Corée, oula.
Oui, j'ai découvert les romans de Giorgio Sarbanenko.
Voilà, c'est extraordinaire.
Absolument emballé, donc qui sont parus chez Kalmeister il y a 2 ou 3 ans.
La collection Totem.
Voilà, avec l'étonnant détective Duca Lamberti.
Duca Lamberti. Alors ça, c'est à lire. On en a parlé à Mauvais Genre. C'est retraduit, republié chez Gallmeister. C'est absolument extraordinaire. Et je recommande surtout Les Enfants du Massacre. Alors ça, c'est un roman plus noir que noir. Mais ce soir, plus noir que noir, c'est Huysmans. Huysmans vivant, selon Agnès Michaud. Et maintenant, selon Laurent Polleret.
Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice, à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve. Et l'homme impatient se change en bête fauve. Ô soir, aimable soir, désiré par celui dont les bras, sans mentir, peuvent dire « Aujourd'hui, nous avons travaillé C'est le soir qui soulage les esprits que dévore une douleur sauvage. Le savant obstiné dont le front s'alourdit et l'ouvrier courbé qui regagne son lit. Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment et ferme ton oreille à ce rugissement. C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent. La sombre nuit les prend à la gorge. Ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit de leurs soupirs. Plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée au coin du feu le soir auprès d'une âme aimée. Encore la plupart n'ont-ils jamais connu la douceur du foyer et n'ont jamais vécu.
Voilà, le crépuscule du soir de Baudelaire, lu par Alexandre Pavlov. Baudelaire, huissement, c'est...
Baudelaire, c'est le boss.
C'est pas de la consanguinité, mais en tout cas, c'est du respect.
Ah oui, oui. Énorme respect de toute une génération de jeunes gens. De jeunes gens, finalement, modernes. Hein, c'est ces hommes de la deuxième moitié du 19e siècle qui sont donc... un peu comme les punks des années 80 s'opposent aux Beatles, ces jeunes gens dont fait partie Huysmans s'opposent à l'idée romantique qui est morte d'ailleurs l'année où Huysmans est né, 1848, après la Révolution ratée. Et là, finalement, on peut dire que le romantisme fait pchit puisqu'il a échoué à s'incarner. Et eux vont, comme tous les jeunes gens, essayer d'aller... contre, mais finalement cette histoire n'est pas si simple et le vieux père Hugo restera bien longtemps le compagnon fidèle de Huysmans,
oui,
la grande admiration de Huysmans.
Surtout les Misérables.
Et les travailleurs de la mer.
De la mer, oui.
Et pour Baudelaire, c'est vraiment le boss parce que c'est vraiment le type à qui ils veulent ressembler. Parce que c'est sulfureux, parce que ça doit se faire éditer à l'étranger, parce que c'est condamné par la justice et puis surtout... parce que c'est sublime.
Oui, puis les thèmes baudelairiens...
Et les thèmes, ce morbide fin de siècle...
La morbidité, la flânerie urbaine, une esthétique
nocturne. Oui, bien sûr, les petits
nocturnes.
Poèmes. Oui. Le Paris qui s'en va, la critique de la modernité, déjà chez Baudelaire, avant les jeunes gens qui vont prendre la suite.
Et puis un érotisme d'un mauvais genre affirmé.
De très mauvais genre.
Voilà.
De très très mauvais genre.
Absolument. Alors, je disais en ouverture de cette émission que l'on n'avait pas été gratifié d'une vraie biographie de Huysmans depuis 67 ans. C'est quand même inouï. Parce que Huysmans est quand même un classique de la littérature française, même si c'est pas un classique qu'on fait réciter et qu'on fait apprendre comme d'autres classiques, les Flaubert, les Hugo et autres. C'est quelqu'un qui a été en livre de poche tout de suite. Je me souviens d'avoir chez moi La cathédrale et Là-bas en livre de poche, mais les livres de poche de la Fondation, à l'époque où le livre de poche valait un franc. C'est quand même une figure à la fois élitaire, populaire, répandue. Et il a fallu attendre depuis 67 ans, je le répète, la précédente biographie, c'est celle de Robert Baldick, donc qui est une traduction de biographie anglaise, qui est parue en 1958 chez De Noël, et depuis, rien. Alors si, il y a eu quand même des tentatives.
Il y a des livres sur Huysmans.
Il y a Alain Vircondelet qui a publié une biographie chez Plon, il y a Patrice Loquemont qui en a publié une chez Bartilla, qui est un éditeur amoureux de Huysmans. Il y a eu, et la société Huysmans ne cesse d'exhumer, de réinventer des documents, de commenter, d'analyser, de pointer. Donc il y a une actualité Huysmans, mais sa vie, visiblement, ne semblait pas... aimanter, magnétiser les biographes, Agnès Michaud.
Comme vous le disiez bien au début, il y a quand même une sorte de mystère dans le panthéon de la littérature. C'est que, je le dis souvent comme ça, ça reste malgré tout, au niveau commun, un second couteau. Alors qu'il m'est apparu après le travail que j'ai fourni, parce que je ne suis pas partie en spécialiste, je suis partie en personne intéressée. Et du coup, avec l'étonnement de la personne qui va découvrir, et je pense que ça joue beaucoup dans la façon dont le livre est fait, et dans ce qu'il peut découvrir, il reste un second couteau. De fait, son lectorat est réduit. Les gens parfois connaissent son nom, dans le cas supérieur, à rebours leur dit quelque chose. Puis après, il y a ceux qu'on lit à rebours. Et puis après, ça devient rarissime. Mmh. Hein, au-delà d'à rebours, ça devient rare. Alors, il y a ceux qu'on lit là-bas et pas à rebours. Ça existe aussi, hein, le roman, entre guillemets, sataniste.
Et pourtant, tous ces textes sont disponibles en édition de poche simple ou universitaire depuis toujours. Enfin, je veux dire, on peut lire Huysmans. C'est pas un auteur qui manque à l'appel si vous allez chez un libraire.
Alors, est-ce que c'est la complexité de son parcours? Ce parcours qui peut être jugé un peu anti-républicain à cause de la conversion, qui a fait qu'on l'a un peu rangé. Mais pourtant, il y a les surréalistes qui vont... Breton l'adore, le met dans Nadja, le met dans l'anthologie de l'humour noir.
Oui, c'est là où il y a aussi cette phrase... Il cite tous les romans, puis il dit « Après, nous le perdons ». Enfin, il y a quand même un Huysmans qui...
Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que sans doute ce parcours...
Alors,
pris entre les cléricaux et les anticléricaux a peut-être un peu gêné son exposition. Mais bon.
Mais Agnès Michaud, donc Huysmans naît en 1848, lui si peu révolutionnaire, meurt en 1907. Plusieurs décennies de bons et loyaux services au service de la République, au ministère de l'Intérieur, et il termine sous-chef de service à la Sûreté nationale. C'est-à-dire qu'il était policier.
Il était grade-papier rue des Saussets. Ça existe toujours, hein, la rue des Saussets, ils n'ont pas bougé. Il vient d'une famille de fonctionnaires. Le père l'était, le grand-père l'était, enfin bref. Donc, quand il est jeune, il veut absolument rentrer dans le fonctionnariat parce qu'il a déjà pigé. Il a l'ambition d'être écrivain, mais c'est un tout petit bourgeois. Il n'a pas de biens, il n'a pas de rente.
Il a quand même un petit atelier de brochage.
Et s'il n'a pas le salaire de la fonction publique, je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas pour beaucoup d'écrivains, qui sont ou professeurs, ou voilà, il sait qu'il n'aura pas de vie d'écrivain. Parce que la misère, c'est pas pour lui. Il en connaît des miséreux, et d'ailleurs, ça me paraît un point aussi important du livre Au-delà de Huysmans, c'est, on y croise à peu près tout le Laguerre des Michards du XIXe siècle, et nous y croisons la plus crasse misère qui soit. Les Barbet, les Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine c'est un peu plus connu, sont des gens qui peuvent avoir faim. Voilà, donc Huysmans voit ça autour de lui, et alors... Il ne le veut pas pour lui, il ne se sent pas capable de le vivre.
Mais c'est
donc
vrai,
le fonctionnariat, toute sa vie, il va râler, et puis il sait très très bien râler, hein, il fait ça très bien, contre ce job, ce bureau lugubre, ennuyeux, morne, ce trajet en omnibus, voilà. Mais à la vérité, ça le sauve, et ça lui correspond assez bien. Parce qu'il a un côté un peu flicard.
Curieux, dirons-nous.
Flicard, moi je dirais flicard, je trouve que ce... Oui, il a un côté flicard dans son observation du réel. Il va chercher les dessous des choses, il aime bien fréquenter les milieux interlopes, il va à la pêche aux infos, un peu comme un agent de la sûreté. Hein.
Bah ouais.
Et il a fait des jobs divers et variés, alors il a beaucoup gratouillé du papier, en recopiant des notices, des machins, des missives, etc. Mais il a fait un truc assez marrant. Qu'il l'a fait marrer un temps parce qu'il détestait cette personne, il a été chargé de lire le courrier du général Boulanger à sa maîtresse. Donc le général Boulanger,
général
surveillait...
Boulanger, star de la politique française pendant toute une période qu'on appelle la période boulangiste, une espèce de ministre de la guerre, devenu extrêmement populaire pour avoir amélioré la vie du soldat, et qui prend brusquement une dimension politique inouïe, qui devient une véritable star, populiste. Nationaliste, mais... qui finira de façon, comment dire, tragique. Il se suicide sur la tombe de sa maîtresse. Mais c'est Huysmans donc qui gérait la question Boulanger.
C'est ça. Et alors, comme il est très très vachard, très très perfide, il s'est beaucoup amusé à critiquer le style des amoureux. Voilà. Donc ça l'a un peu égayé un temps. Mais malgré tout, quand il voit le jeune Paul Valéry qui a 20 ans, qui arrive de 7, avec un papa qui le pousse aussi à devenir fonctionnaire, Paul Valéry n'a pas du tout envie de devenir fonctionnaire, ça lui semble une tristesse, comme à Huysmans. Eh bien, ce Huysmans, qui soi-disant déteste son métier, dira à Paul Valéry, écoutez, je vais vous donner les adresses pour vous procurer le catalogue avec les dates des concours. Et il pousse Paul Valéry à devenir fonctionnaire en lui expliquant, si tu veux écrire, ça te sauvera toujours la vie. Et Paul Valéry obéit.
Oui, c'est un réflexe salvateur, puisque vous avez cité les miséreux. C'est vrai que Léon Blois démissionne du Chemin de fer du Nord, où il était dessinateur, pour entamer une vie de vraie vie de misère et de miséreuse.
Une vie de tapeur, même.
Et de tapeur, par nécessité, vie de l'île à Damp. Alors, il y en a, effectivement, qui ont la bonne idée de signer dans la fonction publique, dans la diplomatie, les Claudel, Morand, Giraudoux. Alors, Huysmans à la Sûreté nationale. C'est vrai que c'est un réflexe qui règle la question du quotidien.
Exactement.
C'est gris, mais c'est sûr.
Et en plus, dans son cas, c'est quand même un grand angoissé. Il a presque un profil d'anorexique. Il contrôle tout dans sa vie. Donc cette espèce de routine, bon, il râle parce qu'il adore ça, mais cette routine, je pense, le sauve. C'est une colonne vertébrale. Il sait à quelle heure il déjeune, il sait à quelle heure il bosse, il sait à quelle heure il rentre, il sait à quelle heure il se met à travailler, il sait à quelle heure il caresse son chat, il sait quand est-ce qu'il baise, une fois par semaine, pas plus. Voilà, il s'organise pour que tout tienne, et en fait pour que son être ne s'effondre pas, je crois.
Et physiquement, parce que on va en parler, c'est le grand intérêt de votre livre, Agnès Michaud, c'est plus les tribulations d'un corps que les épisodes d'une vie au sens historique du mot. Vous avez peut-être trouvé la manière, je veux pas trop aller trop vite, mais prendre Huysmans sous l'angle du corps et de l'histoire d'un corps, ça permet quand même d'éviter les tripartitions habituelles quand ce qu'il concerne, ça permet une continuité, mais on va voir ça, on va en parler en détail. En tout cas, j'aimerais qu'on parle de la structure du livre. C'est un livre en trois parties. Première partie, le père. On remonte le temps, 1876 à 1948.
Première partie, le fils.
Le fils, pardon. Oula, autant pour moi. Deuxième partie, le père, donc. Voilà. 1877-1895. Et troisième partie, le Saint-Esprit, avec là l'infini qui est...
C'est ça.
Qui est marqué. Alors, que signifie cette tripartition, cette construction chronologique qui n'est pas évidente, qui n'est pas la chronologie habituelle des biographies académiques?
Alors d'abord, elle surgit comme le livre est écrit, avec beaucoup de spontanéité, comme une évidence, la prière à l'envers pour une vie pas toujours à l'endroit. Et tout de suite, ça imprime le parcours qui finit dans Dieu, c'est son choix. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt tout de suite. La logique, c'est qu'au début, il est un fils et que la fin de la première partie, c'est la mort de la mère. Et comme par hasard, sans psychologie de bazar, la mère meurt et il va pouvoir publier son premier roman. Quand on est écrivain soi-même, on sait bien que tout ça a du sens. Parce qu'on doit quelque chose à la famille. Et c'est l'endroit où on n'est pas libre, c'est l'endroit où on prend des précautions. Libéré de sa mère, puisqu'il avait déjà été libéré de son père, malheureusement pour lui, à l'âge de 8 ans. Là, il est orphelin. Il a cette identité d'écriture, hein, parce que dans la vie, tout le monde l'appelle Georges. C'est moins exotique. Commence sa carrière de romancier. Et donc là, dans cette première partie, oui, il est un fils. Après, il devient un père. Il devient un père parce que dans cette très grosse partie, qui est pour moi ce qu'on appelle la vie, et qui en gros, dans toutes les vies, correspond à la vie professionnelle. Après, il y a la vieillesse, il y a autre chose. Huysmans se fait les dents, d'abord avec Zola. Et puis, quand va arriver à rebours, il devient père en littérature. C'est-à-dire qu'on le regarde comme quelqu'un d'inspirant. Et non plus comme quelqu'un d'inspiré par Émile Zola. On voit la nouveauté, et à son corps défendant, je persiste à le dire, il se verra le père du décadentisme. Mais très franchement, quand on le lit soigneusement, quand on lit sa correspondance... Il est tellement moderne, je tiens à le dire, ce pépère Huysmans, que quand il voit les jeunes décadents, il trouve déjà ça vieux et déjà sans intérêt. C'est pour ça que sa place de second couteau est étrange, parce que le roman moderne, c'est quand même lui, quoi. Il y a eu Flaubert avant, mais lui le fait Complètement. Complètement.
Écrivain parisien, né le 7 février 1848, mort le 12 mai 1907, auteur d'un livre resté célèbre, « À rebours », qui bouleversera toute une génération et changea le roman à jamais. Écrivain en deux rounds, « Le mécréant » et « Le converti », chaos au début du troisième qui promettait « Maladie mortelle, coup bas ». Misérable tas de petits secrets qui console son dégoût en reniflant son temps du fond du slip au fond de l'âme et transforme la boue en boue parce qu'il ne croit pas à l'or. Misanthrope tentant la fuite hors du monde, jusque dans le sombre et l'humide des cloîtres, jusque dans la maladie. Fumeur qui allume la prochaine cigarette avec la dernière. Fonctionnaire zélé du ministère de l'Intérieur. Fouineur, fouille-merde, pinailleur, râleur, esthète. Bâtisseur infatigable d'une cathédrale de la langue qu'il orne jusqu'au charlatanesque, jusqu'à une coupable excentricité, jusqu'à l'absurde de néologismes impeccables qu'il augmente des langues patibulaires que la bourgeoisie veut inaudibles, argot des voleurs, des bouchers, des gens de toutes les banlieues de la vie qu'il cisèle de mots sophistiqués et coruscants piétinés par les muffetons d'un monde de comptables aplatis devant le dieu argent. Homme moyen, gris, morne, qui aime les horaires fixes et les plats mijotés, homme à chat, emmerdeur, qui boit l'existence comme un interminable emmerdement, pervers hebdomadaire bien servi par une époque où tout est à vendre, les femmes comme les gamines en âge de jouer à la poupée, masochiste excité par un monde où seul le pire arrive, descendant de petits bourgeois fonctionnaires et commerçants lui-même, descendant de peintres hollandais, peintres en littérature, célibataire mal convaincu qui désire le mariage autant qu'il le méprise. Drôle de type qui raconte parce qu'entre Second Empire et Troisième République, il a bien flanoché dans l'impur, le fade, le dérisoire, le burlesque et l'atroce, ce que nous savons tous, que vivre n'est pas facile. Elle écrit comme il faut, c'est-à-dire comme il ne faut pas, avec l'inconvenance du méchant désespéré. Un extrait de Huysmans vivant de notre invité de ce soir dans Mauvais Genre, Agnès Michaud. Ben voilà, il faut tenir les deux bouts de la corde en même temps, c'est-à-dire une espèce de révolte qui va de pair avec tout ce qui d'habitude incarne l'anti-révolte. C'est-à-dire ça, montrer qu'il y a une révolte au quotidien, qu'il y a une révolte chez cet homme qui prend l'omnibus, mange à heure fixe et rentre s'occuper de son chat.
Il est vraiment fascinant parce que parfois, en allant un peu vite, on pourrait le trouver singulier. Mais il est très typiquement homme de son époque. On le voit pas très singulier, il fait un peu comme tout le monde, il va à l'expo de 89, il trouve ça, bon, il aime pas la Tour Eiffel, il est pas le seul. Puis finalement, il se marre bien à l'expo, il va dans des cabarets, machin, cabaret, le restaurant roumain, comme tout le monde. C'est quand on lit la presse, tout le monde a trouvé le restaurant roumain de l'expo universelle, génial. Donc, il est totalement homme de son époque, et c'est en ça que c'est un écrivain extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette époque, il la pénètre comme le Pékin moyen, mais j'allais dire avec des moyens élevés. Des moyens littéraires élevés. Et surtout, ce qui, pour moi, est le plus... J'allais dire le plus important en littérature, mais en tout cas, c'est une base indispensable, avec une lucidité et une sincérité. Ça, la sincérité, c'est pour moi, ça a été... de ce voyage d'écrire ça, mais bouleversant, c'est bouleversant la sincérité. Vous voyez, par exemple, En route, bon, qui est le récit de la conversion, bon, là, peut-être des gens nous écoutent, mais là, bon, la conversion... Eh bien, même si Dieu vous emmerde, lisez En route, la sincérité dans certains passages d'En route, sur l'être, sur les tiraillements, sur cette volonté d'accéder à autre chose, ça fait pleurer, c'est poignant et ça parle à tout le monde. Et il parle à tout le monde parce qu'il est comme tout le monde. Peut-être un peu plus gris, peut-être un peu plus triste. Mais après tout, il a une enfance du 19e siècle. On voit la même chose chez Vallès. Vallès raconte la même chose de l'enfance. Ce sont des enfances dans des pensions atroces. Et quel que soit le niveau de chiquitude de la pension, ils y fréquentent des gens pervers, des pions pervers, des directeurs qui leur fourrent des trucs sexuels dans la tête en les condamnant d'un truc qu'ils ne font pas, genre se masturber le soir ou avoir des relations entre eux, des enfants qui ne savent même pas ce que c'est. Donc où on les nourrit mal. L'enfance est en fait, nos ancêtres, tous, Huysmans comme les autres, ce sont des enfants sacrifiés. Vous voyez comment, 150 ans après, le monde pourrait sourire alors que nous avons piétiné la base. On a piétiné la base pendant tout ce siècle. Et donc, effectivement, ça en fait un être plus triste. C'est un orphelin. Mais quand il... vous voyez, par exemple, quand on fait une bio, bon, bah, Boldic, l'anglais, c'est peut-être les années 50, il n'avait pas fait gaffe. Mais quand le père de Huysmans meurt, Huysmans a 8 ans. Bah, il n'y a qu'un enfant dans ce ménage. On est en 1855-56. Comment est-ce possible? Sauf si ce ménage va très mal. C'est-à-dire que la femme se refuse à l'homme, ou que l'homme est incapable d'honorer la femme, enfin quelque chose ne va pas. À cette époque-là, c'est impossible de rester 8 ans ensemble en ayant un seul enfant. Et on n'a pas trace d'enfant mort. Voilà. Donc, il naît en plus dans un foyer qui va très mal. Il naît avec tout l'échec du père. Parce que cette famille hollandaise dont l'ancêtre est au Louvre, hein, vous pouvez toujours voir les tableaux de Cornelis Huysmans au Louvre, peintre hollandais classique. Vous savez, Huysmans disait, oui, c'est les peintres hollandais, ils font du persil de feuilles. Voilà. Ce qui est une très très bonne image de la façon dont on fait les arbres dans la peinture hollandaise. C'est un échec. Le père rêvait sans doute de faire un peu une carrière artistique. Bon résultat, il illustre des missels et des journées du chrétien. Et ses affaires marchent pas. Et très vite, la mère a l'impression d'avoir fait un mauvais mariage. Et c'est un peu elle, sans doute, qui fait vivre le ménage. Elle est institutrice. Donc, je pense que rue Saint-Sulpice, là où il vit à cette époque-là avec ses parents, c'est lourd. On rigole pas tous les jours. Et là... le sublime de la cohérence de l'existence et des coïncidences. Je vais à cette adresse pour voir le panorama. Je la connais bien, cette rue, mais j'y vais. J'arrive à rentrer en me glissant derrière quelqu'un qui m'engueule tout de suite. Je dis, j'écris sur Huysmans, et on fait, ok. Ça a tout arrangé.
Je passe.
Quand on sort de cette adresse, et de cette adresse, il est sorti orphelin, l'horizon est barré par la tour nord de Saint-Sulpice, qui sera l'endroit... centrale et magnifique de son roman Là-bas. Vous voyez, une vie d'écrivain, c'est totalement cohérent et c'est magnifique quand on est biographe.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Valjean qui reçoit ce soir Agnès Michaud pour Huysmans vivant aux éditions du Cherche Midi. Alors traditionnellement, on découpe la scie Huysmans en trois parties. La partie naturaliste, avec ses compagnons de route et même cofondateurs, on peut le dire, du naturalisme avec Zola, Marthe, les sœurs Vatard, cet univers de l'atelier, puisque lui-même a hérité d'un atelier de brochage. Donc il était au premier rang pour voir ce qu'était une ouvrière, un ouvrier, des horaires, des blessures au travail. Donc il y a cette première partie, Huysmans naturaliste. Deuxième partie, alors là, c'est plus indécis, c'est la rupture avec le naturalisme apparente qui est l'arbour est là-bas, le luciférisme qui succède au décadentisme. Alors là, c'est un deuxième temps. Et le troisième temps, c'est la conversion après 1891, la fréquentation des monastères, la tentative d'une sorte de communauté pieuse à Ligugé, la maison Notre-Dame, et puis la mort de mort atroce qui sera la sienne, dévorée, pourrie vivant par le cancer. Donc on a ces espèces de convois avec ces trois wagons d'habitude. Et là, je trouve que vous avez trouvé le moyen de rompre avec cette tripartition pesante et mécanique, c'est de vous concentrer sur l'histoire d'un corps. C'est le corps d'un célibataire qui aime bien la question de l'alimentation, de la maladie, qui est un homme qui a une sexualité, un érotisme extrêmement pervers, particulier, raffiné. Bon, ça c'est une chose. C'est également un grand flâneur, donc c'est pas l'homme de l'effort violent.
C'est pas le sportif.
Il va pas traverser la Manche à la nage ou faire l'ascension des Alpes. Hein. Huysmans, il va.
Puis le sport, c'était trop moderne.
C'est un truc moderne. Donc il y a tout cet aspect. Il y a ce corps de Huysmans, et puis il y a le corps des personnages de Huysmans, puisque le corps de Marthe et des sœurs Vatard, c'est les corps d'ouvrières du 19e siècle. Le corps de Des Esseintes, c'en est un autre. Celui de Gilles de Rais, c'en est un quatrième. Et puis après, il y a les corps mystiques. Celui de Sainte-Lidvine de Schiedam, qui est littéralement démantelé par la passion mystique, les stigmates, la souffrance, la configuration au Christ. Et puis, toutes ces sœurs aussi qui chantent d'une voix flûtée la gloire de Dieu. Donc, ça ne sont que des histoires de corps. C'est un corps qui bouge, c'est un corps qui change. Et ça permet d'avoir une continuité, Agnès Michaud.
Oui, parce que pour revenir à ce que vous disiez au début, moi je ne suis pas pour le tronçonnement de l'être. J'oserais même dire que je suis absolument contre. Et qu'expliquer, pour parler de ça vaut pour tout le monde, hein, mais d'expliquer un écrivain par période, enfin on est le même être. C'est un être en mouvement perpétuel, et dans son cas c'est un écrivain qui pense. Tous les écrivains ne pensent pas, mais lui c'est un écrivain qui pense. Et donc, il y a la cohérence d'exister dans le fait de raffiner des choses, de comprendre mieux, d'évoluer. Et l'esprit habite le corps. Et ça, c'est la condition humaine. Et il vit la condition humaine. Voilà. Et quand il deviendra chrétien, encore plus, parce qu'il est un peu doloriste. Donc, il va bien aimer se rédimer dans la souffrance.
Le catholicisme de l'époque est configuré, est doloriste.
Oui.
C'est le calvaire, c'est pas la souffrance.
Exactement.
C'est les souffrances du calvaire.
Vraiment, pour moi, ça, c'est très important. Et la manière dont on a vécu en ménage, Huysmans et moi, j'espère, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est organique. Et l'expérience que j'ai de l'écriture et qui est partagée par mes camarades. Mais bien sûr qu'on est un corps. Moi, j'ai passé un an allongé pour écrire ce livre. J'écris sur mon lit. Donc, je ne vous dis pas dans quel état j'étais. Donc, le corps est à l'œuvre, c'est physique aussi. Et c'est vraiment le mariage du corps et de l'esprit, un écrivain. Donc on peut pas séparer, c'est contre nature. Donc effectivement, c'est un mouvement continu, ça peut être un mouvement impétueux, il y a des ralentissements, il y a des accidents, mais un être, c'est toujours une cohérence. Et même ce qui semble incohérent a sa cohérence. C'est-à-dire que le pas de côté, l'hésitation a ses raisons. À son moment. C'est très respectueux de la vie, en fait, de voir comme ça. Et ça permet de saisir aussi différemment les choses. Et encore une fois, vous voyez à quel point sa littérature est sincère aussi de ce point de vue-là. Effectivement, dans sa correspondance, il y a beaucoup d'écrivains comme ça. Alors, il écrit à son pote hollandais...
Harry Sprins, voilà. Correspondance qui est disponible donc, chez Champion.
C'est peut-être même à Théodore Anon, c'est peut-être même avant, il dit...
Disponible chez Christian Pirot. Je fais les notes de bas de page.
Voilà. J'écris donc l'intensité de l'écriture, et il se plaint, il dit... plus mon cerveau travaille, plus mes couilles se vident. Je suis désolée, hein, il le dit comme ça. Voilà. Et en fait, c'est marrant, parce que c'est une expérience d'écrivain, parce que Fitzgerald dit la même chose. Quand il écrit, il est chaste. Donc, à un moment, la libido, l'élan vital, c'est dans l'écriture. Et en fait, tout est en jeu. Ce qui veut dire, restons sur le corps, que l'écrivain est un corps et qu'il met tout au service de l'écriture. Pas juste ses petites cellules grises, comme dirait notre ami Hercule Poirot, mais il investit tout son être. Donc, effectivement, la libido est en baisse parce qu'on la met dans le néologisme, chantourner la phrase, observer les petites ouvrières de l'atelier de brochage qui lui posent bien des problèmes parce que cet atelier ne marche pas bien. Voilà, pour trouver son sujet et pour dire la réalité.
Il aime les putes, les filles perdues, publiques, inscrites, encartées, les dégrafées, les garces, les traînées, les salopes, les gouines, les gamines. Il les aime, il les méprise, il les aime. Bref, c'est compliqué. Il faudra sans cesse aller y voir, chercher la petite bête et la grosse, décomposer la chimie exacte du parfum de ses débauches, entre exultation diminuante et solitude augmentée, pénétrer le véritable état d'âme et de corps de ce dépravé fin de siècle. Tout de même, il est un peu sale type dans ce domaine, et type de son époque qui n'a pas à se mettre sous la langue que des femmes de son époque, de pauvres choses domestiques, décoratives ou érotiques, puisque c'est ainsi que les veulent ces messieurs. Des femmes aussi peu respectables que le désir et le pouvoir qui les ont reléguées à leurs emplois respectifs, tenues à l'écart de tout ce qui enrichit l'individu, éduquées pour satisfaire, servir et torcher, c'est-à-dire ne recevant pas d'éducation. On s'amuserait presque de cette évidence qu'ils ne les aiment que pour quelques petits tours sexuels sans importance et ne les jugent guère intéressantes. Michaud, notre invité pour Huysmans vivant au Cherche Midi. Alors effectivement, là, c'est sûr qu'à l'image de tous les écrivains de cette époque, c'est un grand amateur de maisons closes. Mais ce qui est intéressant, c'est que en définitive, on retrouve cette espèce de passion du corps qu'il y a dans ses livres. On les retrouve dans sa vie aussi, puisque il avait une image de la femme qui était totalement à géométrie perpétuellement variable, que ce soit l'ouvrière, la goualeuse, la chanteuse de bastringues, et termine par la mère abbesse de Sainte-Cécile de Solesmes. C'est aussi une extraordinaire parade de corps féminin, la vie de Huysmans. Et là, je ne parle pas de corps littéraire, incarné.
C'est la maman à la historique. C'est la maman à la putain, un peu. Hein, c'est un classique. C'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'à cette époque, finalement, parfois il disait « Je ne peux aimer que des femmes qui n'existent pas encore ». Je trouve ça très prophétique sur la place que la femme va réussir à prendre. Mais il est vrai qu'à son époque, lui qui était si fin, si cultivé, si amateur de choses compliquées ou très anciennes, les femmes n'avaient pas accès à l'université, n'avaient pas accès. Donc, discuter de ces sujets-là, ça ne pouvait être qu'entre hommes. Alors, par contre, pour la bagatelle, Paris était très fourni. Vous voyez ce que vous avez lu, j'aurais pu en mettre une page de plus de mots pour décrire les prostituées.
Mais il y a une page de plus.
C'est le fléau de la société industrielle. À Londres, c'est pareil. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est une forme du capitalisme, puisqu'on peut tout vendre, ben, le corps aussi, hein, voilà. Et il fréquente ça assidûment, comme un type en... En fait, c'est son équilibre. C'est une forme de l'équilibre. Je pense qu'en psychiatrie, aujourd'hui, on connaît ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'exultation recadre. C'est un angoissé. Donc, tout le déséquilibre, tout le temps. C'est un type à la recherche constante d'une sorte d'équilibre. Et de manière assez théologique, son centre, au bout d'un moment, il va l'occuper avec le Christ. Voilà.
Autre corps.
En théologie, bon, il y a Lucifer qui traîne, mais au centre, s'il y a le Christ, ça va.
Ah oui, mais alors Lucifer, il y a cette phrase qui m'obsède depuis maintenant 40 ans, l'au-delà du mal ne s'atteint pas. Ça, c'est la phrase qui me hante, comprends. Mais c'est un autre sujet. Stéphane Duménildo.
Oui, puis il y a cet épisode très étrange où il se met à fréquenter des maisons de rendez-vous homosexuels, etc.
Oui.
Il se retrouve avec des débouchés, des Fordéas. Alors, je me demande si c'est pas
Jean Laurin,
évidemment. Jean Laurin.
Alors que Jean Laurin aurait peut-être pu faire un film.
Tout à fait. Qu'il aurait un peu influencé, mais en fait, on sait pas si c'est par attirance, documentation, ou peut-être le côté un peu flic aussi, hein.
Alors
justement.
Alors, chez lui, il y a le côté un peu petit bourgeois qui veut se faire des frayeurs, quand même. Quand il va dans certains trucs.
Château Rouge à la Maube.
Évidemment, les boîtes homosexuelles, il connaît les adresses par cœur et il sait dans lesquelles aller. C'est-à-dire celles où il n'y a pas trop de mecs de la sûreté, parce qu'il a la liste justement à la sûreté. Il sait d'avance où vont avoir lieu les descentes. Il y va assez clairement pour avoir une expérience homosexuelle. Et là se dévoile sa perversion. C'est qu'en fait, il arrive dans des boîtes où les mecs ressemblent surtout à des Hercules. C'est moustache et muscles. Il écrit toujours à son ami hollandais Harry Sprintz. S'il avait eu un corps nubile de jeune garçon, peut-être j'aurais eu envie, mais pas là. Quand même, on peut supposer que peut-être un peu plus tôt dans sa vie, il a eu une expérience. Mais enfin, bon, ça l'a pas plus. Il n'a pas trouvé à vraiment exploser de désir pour un homme. Il a envie de goûter à tout. Hein. C'est assez étrange. La documentation, bien sûr. J'allais dire peut-être de la même façon que le catholicisme à la fin. Il est toujours. C'est un vrai écrivain. Il est toujours à la recherche de l'extension du domaine de la littérature. Alors l'homosexualité, c'est une extension du domaine de la littérature. Nouvelle sensation, nouveau territoire. La religion, pour un type comme lui, c'est, alors là, une méga extension du domaine de la littérature. Le monde de la symbolique, l'invisible, l'ésotérisme chrétien, il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans la vie, mais... De quelle façon on peut séparer chez un écrivain la vie et l'œuvre ? Ça, c'est une question complexe à laquelle moi-même, je n'ai pas vraiment la réponse.
Il y a un côté un peu vampire aussi, parce qu'il va dans des asiles de nuit où il y a des pauvres qui dorment. Alors, j'ai l'impression qu'il y reste toute la nuit, en fait, à les regarder.
Oui, alors, il aime ça, mais à la fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est très homme de son époque. C'est-à-dire que vite, les marlous de la Maube, là, ils avaient compris la combine, que les petits bourgeois venaient voir les pauvres, ils faisaient payer. Et donc, en cela, certes, c'est huit semences, mais il fait comme un peu tout le monde. Et d'ailleurs, Jean Laurin, ça c'est très drôle, huit semences va chez Edmond de Goncourt lui dire « Ouh là 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 là, je suis allé m'encanailler à la Maube ». Et il lui raconte des trucs qu'il a risqué sa vie avec des bandits et tout. Ok, donc, comme Goncourt note tout dans son journal, on sait tout, donc il note ça. Et, juste après huit semences, donc ils ont dû se croiser dans l'entrée, Jean Laurin arrive, et Goncourt lui dit, « Ah, dis donc, Georges m'a raconté, il est allé à la Maube, c'était très très chaud, il a risqué sa vie. » Et Jean Laurin lui dit, « Mais pas du tout, tu parles, c'est un truc de touriste et tout ça. » Voilà, et, évidemment. Et c'est vrai. C'est vrai, ça a été très organisé. Alors, il y avait des meurtres, ça arrivait. Mais très vite, il y avait un petit truc. Il y avait un guide qui vous montait à l'étage, justement, pour voir les pauvres dormir à la corde. Alors ça, j'ignorais que ça existait, j'ai découvert. Donc, quand on était très pauvre et qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, on dormait donc assis sur un banc. Et à la corde, il y avait une corde pour poser la tête. Voilà, parce que quand on s'endort, c'est pour pas tomber, quoi.
Alors, tout ce dont vous nous parlez, Agnès Michaud, aujourd'hui, il y a pas jamais assez de lecteurs de Miss France. Il y en a, mais pas en quantité que là. À l'époque, est-ce que tout ce dont vous nous parlez était reçu? Parce que oui, Zola était reçu, Goncourt était reçu, je dis par le public. Est-ce que Miss France a trouvé, a inventé un nouveau public?
Alors, inventer un nouveau public, il a fini par...
Parce qu'il invente de nouveaux textes, de nouveaux romans.
Certes,
des romans alors, qu'on n'avait jamais lus. Alors,
certes,
est-ce que le public
mais bon, comme quoi la littérature, ça va jamais bien. À rebours n'est pas un gros succès. Hein. Il a un succès d'estime, il a quelques lecteurs, mais ce n'est pas un succès... En fait, son rêve, comme tous les écrivains, c'est de ne plus être obligé de travailler rue des Saussets, au ministère. C'est donc d'avoir un véritable succès avec ses livres, qui ne l'oblige pas non plus à piger dans la presse, parce qu'il n'aime pas ça non plus, en fait. Et ça n'arrive pas. Et en fait, ça va arriver sur les livres qu'on dit catholiques, pas avant. À partir d'En route, bon là-bas, il y a un petit frémissement. Parce que le sujet est à la mode. Donc il y a presque une incompréhension, parce que le livre de Huisman, c'est bien autre chose que juste un livre sur le satanisme contemporain. Enfin, c'est pas, j'allais dire, un livre d'opportuniste, parce que le satanisme est à la mode, quand même. C'est de la grande littérature. Mais ça prend vraiment, et là, vraiment, il a du succès, et il peut envisager de faire construire à Léguget avec ses amis Leclerc,
la maison
à partir des romans catholiques dans une France où, finalement, il trouve un public qu'il n'invente pas, c'est-à-dire c'est la lutte entre les cléricaux et les anticléricaux, donc les cléricaux achètent les livres catholiques de Huysmans. Voilà.
Agnès Michaud, Huysmans vivant, on a l'impression d'un télégramme. Rassurez-vous, Huysmans est vivant et bien vivant. Et la formidable biographie de Jeurys-Karl Huysmans, la première en France depuis plusieurs décennies. C'est un vrai bonheur de lecture. Et puis lisez Huysmans aussi, il est disponible partout, en Pléiade, en bouquin, en folio, en Garnier Flammarion. Je ne peux pas vous faire la bibliographie, mais il n'y a aucune raison de ne pas lire Huysmans.
Et gratuitement sur Gallica, je dis rien.
Sur Gallica. Donc allez-y, lisez Huysmans, c'est quand même un extraordinaire bonheur. Chronique maintenant de mauvais genre, on commence avec vous Esther Taillard, on retrouve d'ailleurs un grand roman des corps, Feu croisé de Cécile Guilbert chez Grasset.
Il y a des livres que l'on aime, et ce tout de suite, immédiatement. Feu sacré, récit autobiographique de Cécile Guilbert, juste paru chez Grasset, est un texte d'une grâce infinie. Maîtresse Guilbert nous donne à boire, et méfiez-vous de cette liqueur. Comment cette adolescente rebelle, farouche et fatale, est-elle arrivée à la spiritualité hindoue, l'Advaita Vedanta, la vie apaisée? Nos existences sont bien étranges et les chemins par lesquels nous passons sont troubles. Cécile Guilbert porte d'abord la vie dans la colère et la littérature, s'épuise dans la cocaïne et les vernissages cuir. Le Tréamont sur sa table de chevet, Baudelaire serré au corps, l'Inde est encore loin. Son oncle et sa tante l'encouragent à s'y intéresser. Elle s'en tape, trop occupée à vivre et rencontrer l'amour, son mari Nicolas qui déboule dans sa vie comme un derviche tourneur, comme une éclipse d'été. Studieuse à 16 heures, les nuits chargées et dissolues, Cécile Guilbert nous sert le premier verre, et celui-ci est fait de beauté, de chagrin. On y croit Solers et Nietzsche, les romantiques noirs et le spleen vénitien, le fondateur du Club Med, la Méditerranée comme terre d'accueil, besoin vital. Et puis des êtres qu'elle aime et qui vont disparaître. Une série de deuils, une corrélation de dates fatales et d'étrangeté qui décoifferait le plus sévère des cartésiens. Des êtres qu'elle aime et qu'elle perd, toujours en hiver. Son cousin, tant aimé, Emmanuel, dont le suicide lui est caché. Sa grand-mère qui se couche un jour dans son lit et décide de mourir, d'attendre que vienne la mort. Son oncle Tito, qui vient s'éteindre en Inde où elle part le rejoindre. Son frère David, retrouvé chez lui, mort, sans raison valable, et le corps putréfié. Comment survivre à ceux qui nous laissent en chemin? Voici le deuxième vers. C'est un feu qui s'allume, une route vers soi, dont la première marche commence dans les yeux d'un gourou indien. Gourou comme lumière et surtout pas ténèbres. Cet homme la regarde et ses cils fondent sur place. Comprend que ce que l'on nomme grossièrement hindouisme est une plénitude du cœur, une vie vivante et décuplée, où l'ascèse est jouissance, où les morts ont leur place. Que vous soyez ou non sensible aux vapeurs du ashram, vous serez bouleversé par la prose exaltée de Cécile Gilbert, qui montre que l'existence a son reflet partout, que le néant n'est qu'une excuse pour les premiers crétins, une conjuration imbécile, et qu'il existe dans la vie une flamme parfaite et totale qui donne à croire, à avancer. Cécile Gilbert contemple sa vie, ses fragments et ses ruines, avec poésie, simplicité, délicatesse, une liberté pure que l'on trouve nulle part. Regardez les noms des chapitres, vous comprendrez mon enthousiasme. Il s'appelle « Chercheur d'absolu » ou « La folle du logis ». Mauvais genre, avoue, je dis tout. J'ai pleuré sur le passage de l'agonie de sa grand-mère, qui attend dans son lit la mort, comme une grande, un soldat funèbre. Oui, je le répète, il y a des fils de soie à tirer à chacune des pages. On y croise Christina Campo, et c'est une autre raison pour moi que d'éclater en larmes. René Daumal et autres punks, des symboles, des mystères et des explications. Pauvre con qui ne croit pas aux signes, aux grands appels du corps, du cœur, aux morts au coin de la rue, aux fantômes véritables. Pauvre con qui ne lit pas Feu Sacré ce soir, tout de suite, maintenant. Oui, mauvais genre, il y a des livres que l'on aime, et ce tout de suite, profondément. Et la beauté, cette saltimbanque, a fait son entrée dans cette rentrée d'automne, ces tristes mois qui nous attendent. Feu Sacré chez Grasset, de l'écrivain Cécile Gilbert, le deuil, l'ascèse, la joie. Et comme disait Byron, soupir et sourire sont faits du même abîme.
Merci Esther pour cette chronique. Donc je répète, Cécile Gilbert, Feu croisé, c'est aux éditions Grasset. Mort récemment, oui, emblématique figure du mauvais genre cinématographique, Terrence Stamp, vous lui rendez hommage, donc Stéphane Duménildo.
Eh oui, mais c'est un magnifique hasard, objectif bien sûr, de rendre hommage à Terrence Stamp dans une émission consacrée à Huysmans, car Agnès Michaud sera, j'espère, d'accord. Terrence Stamp aurait fait un magnifique des dessins entre décadence et recherche spirituelle dans un film qui, rêvons encore, aurait été réalisé par Louis Buñuel. Alors, quelles seraient les étapes d'un Terrence Stamp vivant? Tout d'abord, les années 60, bien sûr, son apparition dans Billy Budd de Peter Ustinov, où en Ange Blond, il rend fou d'amour et de haine un capitaine de l'armée britannique. L'obsédé de William Wyler, où il est un collectionneur de papillons qui retient captive une jeune fille, un rôle parfait pour notre Terry des dessins. Terrence Stamp est alors le petit prince du Swinging London avec sa fiancée, le mannequin Jean Shrimpton. Mais c'est la Rome de la Dolce Vita qui lui offre son rôle le plus mythique, celui du visiteur de Théorème de Pasolini, destructeur angélique d'une famille bourgeoise. Stamp incarne une figure pansexuelle inassignable à une quelconque définition, littéralement panique, du fait même d'une beauté auquel nul ne peut résister et qui vole votre âme. Comme un Alain Delon, qui, plutôt que le gaullisme, ce qui, à mon sens, n'est guère sexy, aurait accepté sa part luciférienne. C'est d'ailleurs le diable que lui fait rencontrer Fellini dans le sketch L'Histoire extraordinaire, le chef-d'œuvre Toby Dammit. Fellini voulait l'acteur anglais le plus décadent possible, et évidemment Stamp était l'incarnation même d'une nouvelle décadence anglaise, comme plus tard David Bowie.
Vous croyez en Dieu?
Non. Et au diable?
Oui, au diable, oui.
Très intéressant. Et comment est-il, le diable? Vous l'avez vu?
Oui, j'ai vu le diable.
Oh, décrivez-le-nous un peu. Est-ce que c'est un bouc, une chauve-souris ou un chat noir?
Oh non. Je suis anglais, pas catholique. Pour moi, le diable est sympathique, joyeux. C'est une petite fille.
Il est un Edgar Poe, blond, alcoolique, bien sûr, venu en Italie, tourner un western spaghetti chrétien financé par le Vatican. Vraiment, on ne sort pas du catholicisme décadent. Toby semble, pour lui, qui est anglais donc, hein, et pas catholique, surtout intéressé par la Ferrari qu'on lui a promis en salaire, une magnifique Testarossa. Mais le diable veille sous l'apparence d'une petite fille pâle robe blanche, bien décidée à littéralement se payer la tête de Toby le damné. Toby Dammit est l'apothéose de la carrière de Terrence Stamp, qui incarne à ce point les 60s qu'il risque de s'éteindre avec elle. Alors que son compère Michael Caine, ils ont d'ailleurs été colocataires à leur début, donc ça on aimerait bien avoir des documents.
On aurait aimé être la concierge, non?
Absolument. alors que son compère donc Michael Caine accède à une vraie célébrité hollywoodienne, Stamp devient un de ces acteurs marginaux des années 70. Il ne joue pas sur le côté maléfique de la folie de Kinski, sur l'excentricité queer d'Udokir, ni sur la débauche suicidaire d'Edmund Berger. Il traverse les années 70 comme une figure errante, un peu immatérielle, comme un mystique, ce qui correspond à sa vie, puisqu'à cette époque, il s'est retiré lui aussi dans un ashram en Asie. Le seul comédien auquel on peut le comparer est Pierre Clémenti. Et par ailleurs, Stamp et Clémenti étaient les deux acteurs au départ choisis par Fellini pour incarner les héros du Satyricon. On va le retrouver dans le rôle de Rimbaud d'une saison en enfer de Nello Risi. S'il est trop vieux pour jouer le jeune Rimbaud, il est en revanche parfait pour le Rimbaud cramé par le soleil d'Abyssinie. Dans Rencontre avec des âmes remarquables de Peter Brook, il interprète le prince Lubovetsky, un des membres du cercle du mystique Georges Gurdjieff. Terrence Stamp poursuit au cinéma sa quête initiatique. En 75, il tourne le film le plus étrange de sa carrière, Human, de Jérôme Lapérouzas.
L'autre écran diffuse l'expérience en léger différé pour qu'on puisse arrêter immédiatement l'émission s'il arrivait quelque chose.
Il se passe quoi?
Le danger est réel.
Opérationnel. Module Union l'emporté.
Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici réunis pour la phase 1 de l'expérience la plus audacieuse et la plus exaltante de l'histoire de l'humanité. Le voyage temporel. Terrence Stamp vient d'être déposé par hélicoptère au milieu de la baie du Mont-Saint-Michel, à des kilomètres de la côte, sans aucune possibilité d'être secouru. Il va risquer sa vie devant des millions de téléspectateurs. Seul, isolé par des sables mouvants, il va devoir défendre sa vie contre la marée montante et les courants glacés. Le but de phase 1 est simple.
Alors ce film, on peut facilement le visionner dans une copie délavée sur un site de partage vidéo. Dans Human, avec un tiret entre le You et le Man, Terrence Stamp joue donc Terrence Stamp, un acteur anglais qui accepte de participer à une expérience de voyage dans le temps. Mais c'est un prétexte pour lui faire traverser sans trucage des paysages monumentaux et dangereux, donc une plage bretonne recouverte par la marée, des glaciers et surtout une terre volcanique en fusion. On est quelque part entre René de Je t'aime et Werner Herzog. Les cheveux très longs, en costume blanc ou en cuir, Terrence Stamp est complètement halluciné, hurle de peur ou marche comme un somnambule et semble lancé dans une entreprise mystique d'annihilation de l'être. Pour les cinéphiles archéologues, Human contient un mystère. Quelques secondes où l'on voit un Stamp moustachu dans une sorte de bain turc. Il s'agit d'un extrait du film français Blackout de Philippe Mordac où l'interprète Edgar Poe. Le film sortira par ailleurs 2 ans après Human en 77 et est depuis complètement invisible. Ces quelques secondes en Human sont la seule trace qui reste d'une incarnation de Poe par Terrence Stamp, ce qui fait évidemment rêver. Terrence Stamp n'est heureusement pas mort sur le tournage de Human, emporté par un courant de lave. Il renaîtra sans cesse de ses cendres, interprétant un supervilain glam, un gangster zen, un transsexuel flamboyant dans les airs australiens, jusqu'au magnifique Assassin's Creed d'Edgar Wright, où il joue encore d'une certaine façon son propre rôle de survivant de Swinging London. Impeccablement dandy et toujours beau à faire peur.
Merci Stéphane Duménildo pour cet hommage cinéphilique à Terrence Stamp. Merci Esther Taillard pour cette chronique. Merci Agnès Michaud.
Merci à
d'avoir
vous.
Été notre invitée pour le formidable Huysmans vivant qu'il faut lire, comme il faut lire Huysmans, aux éditions du Cherche Midi. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Grégory Vallon, Claire Poissignon, Esther Taillard, Claire Martin-Dugard, Stéphane Duménildo et François Angelier vous remercie d'avoir écouté Mauvais Gens. On se retrouve la semaine prochaine et nous parlerons de Gotham. Grâce à la formidable exposition qui est au Louvre Lens. Merci à tous d'avoir écouté Mauvais Genre.